Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est vrai? On espère aussi, moi j'espère pour moi-même que tout va bien se passer. C'est toujours pas une épreuve bien sûr d'apporter l'écriture, la parole, mais c'est quand même une responsabilité que nous avons et nous avons à veiller sur la manière dont nous pouvons parler et nous adresser à chacun d'entre vous, et à moi-même déjà, personnellement. Parce que souvent, l'enseignement, on pense que c'est réservé aux autres. Mais chaque fois qu'on enseigne, on est aussi nous-mêmes enseignés. J'ai eu une longue carrière d'enseignant. Je sais ce que c'est que d'apporter quelque chose à des élèves qui sont parfois turbulents. À mon époque, c'était moins. Ils étaient bien plus sages. Mais quand même, il y avait quelques cas parfois particuliers. Il fallait donc gérer tout cela. Et j'apprenais en même temps qu'eux aussi apprenaient. D'ailleurs, au début de ma carrière, je me rappelle que j'étais enseignant dans un lycée professionnel dans lequel, finalement, le centre, c'était l'automobile. Et il fallait apporter aux élèves un enseignement sur le moteur. En physique. Il a fallu que j'apprenne d'abord comment fonctionnait un moteur, avant de le transmettre aux élèves, parce qu'eux, ils auraient pu parfois me faire quelques petites remarques. Bon, il y avait une connaissance à acquérir et quelque chose d'important à transmettre. Et nous, en tant que aussi prédicateurs de l'Évangile, nous sommes amenés à transmettre ce que Dieu a mis sur notre cœur, ne pas le garder pour nous, mais le faire partager aux autres. Et ce matin, je voudrais vous lire avec vous un texte dans les Actes, au chapitre 2, que nous connaissons bien aussi, je pense. C'est là, quand on disait tout à l'heure, Daniel parlait de le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, il aurait dû commencer le Nouveau Testament aux Actes. Amen. Aux Actes. Parce que c'est à partir de là que la grâce de Dieu s'est manifestée, et que la vie des gens ont été transformées. Mais bon, l'écriture, c'est l'écriture. Dans Actes 2, versets 41 et 42. Donc ici, les gens ont entendu le message de Pierre, ils se sont donnés à Christ, ils se sont repentis de leurs péchés, ils ont reconnu leurs fautes et ils ont été baptisés. Il y a eu pas mal de baptisés ce jour-là, hein, à ce moment-là, à la Pentecôte. Je crois qu'ils étaient, le nombre des disciples a augmenté environ 3000. Ceux qui reçurent de bon cœur la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes, environ. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quatre éléments si importants. On dit que c'est les piliers de l'Église. Une chaise auquel il manque un pied, on n'est pas très confortablement installé. Hein. Ou alors il faut faire un peu de gymnastique avec trois pieds, difficile. Avec deux, impossible. Donc il y a des choses importantes qui sont pour nous importantes dans la foi chrétienne. C'est ces quatre éléments qui sont là. Ces quatre éléments. Mais j'ai choisi un élément simplement. Parce que sinon ce serait trop long. J'ai choisi le deuxième, je crois. La communion fraternelle. Quand je me suis converti, bon, il y a déjà aussi de nombreuses années. J'étais un rebelle, j'étais plutôt dirigé par des pensées mondaines. Puis un jour, on a été invité par un ami qui nous parlait depuis quelques années de Dieu, de Jésus-Christ, du salut, etc. Il nous rabâchait un peu trop, hein, comme on peut voir parfois. Il avait même offert un Nouveau Testament, avec de ceux que ta volonté soit faite, Seigneur. C'était l'invitation que j'avais reçue. Et Voilà qu'une petite église s'ouvre sur Rennes. Dans l'allée de Vouvenot, pour certains qui ont y habité, la tour 13, dans le sous-sol, dimanche après-midi. Il nous dit, il y a quelque chose de nouveau, tu pourrais peut-être venir de temps en temps. Alors, mon épouse, c'est pas ma première épouse, elle est allée en premier, moi, c'est pas mon affaire. Mais deux dimanches plus tard, c'était en octobre 1969, ça vous dit quelque chose, je suis allé à cette église. Et j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues auparavant. C'était la communion fraternelle entre les uns et les autres, de ceux qui étaient là, de ce petit groupe, tout petit. On était 12, à peu près 12. J'ai rencontré des personnes qui vivaient ce qu'ils disaient. Et ça fait tilt. Octobre, janvier 70, je me faisais baptiser. Et je me suis donné, je crois, le dimanche 14 janvier, j'ai accepté Christ en disant pourquoi pas. Et le pourquoi pas, de temps en temps, le Seigneur entend. Parce que le pourquoi pas, c'est déjà une décision qu'on a prise. Hein, on veut voir. Et dès ce soir, du dimanche après, Dieu a parlé. Il m'a touché profondément, mais bouleversé. Le pourquoi pas, il a saisi. Il m'a pris par la main, on peut dire, il ne m'a plus lâché. Et j'ai dévoré l'Écriture, le Nouveau Testament, durant cette semaine. C'était une découverte extraordinaire. J'espère que pour vous ici, ça peut être aussi une découverte extraordinaire de ce qui est écrit dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Je l'ai dévoré. Et le dimanche suivant, j'étais baptisé. En général, je suis assez rapide. D'autres sont plus lents. Mais moi, j'ai une décision. Quand une décision est prise, elle est prise. Ce n'est pas le oui, mais. C'est le oui, oui. Avec certitude et avec assurance. Et ma vie a été changée, transformée. Parce que j'ai vu des choses que je n'aurais jamais vues auparavant. Que j'ai découvert. Et cette découverte a été magnifique, extraordinaire. Et depuis ce temps-là, ça fait donc depuis 47 ans passés, 48 ans passés, que ma vie, le Seigneur la touche toujours. Il me travaille. Il me montre aussi vos faiblesses. Et puis j'ai une femme à côté aussi qui me les montre. Il n'y a pas de personne mieux placée que les épouses pour remettre les choses en place. Parce qu'on peut paraître à l'extérieur, très bien, vous savez, il y a des gens qui sont des parfaits chrétiens à l'extérieur, mais quand ils sont dans leur maison, attention, bonjour les dégâts. Ça doit être aussi bien dans la maison qu'à l'extérieur. Et ma vie a été bouleversée. Et je remercie Dieu de l'avoir bouleversée ainsi. Alors, j'ai gardé mon rationalisme un petit peu quand même, puisque une formation scientifique, bon, on reste un peu carré, mais il faut être carré. Il ne faut pas être trop, comment dirais-je, dans les nuages. Il faut avoir les pieds sur terre, dans la vie chrétienne. Dieu n'interdit pas, au contraire. Il nous encourage à vivre dans la vie de tous les jours. On est hors du monde, mais on est dans le monde pour vivre des choses extraordinaires. Alors, les uns les autres, c'est ça qui m'intéressait aujourd'hui. Alors, je voudrais parler aussi en même temps de quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps aussi, c'est Alfred Kuhn, vous connaissez ? C'était un écrivain évangélique, un enseignant qui était à l'Institut Emmaüs en Suisse, que j'ai rencontré, et qui a écrit de nombreux livres d'édification, et en particulier aussi, c'est lui qui est l'auteur de La Parole Vivante, que vous pouvez utiliser, la Bible, le Nouveau Testament, Parole Vivante. Il est décédé la semaine dernière, à l'âge de 97 ans. Longue vie, dans le Seigneur. C'était un Alsacien, avec un accent particulier, comme tous les Alsaciens, mais qui apportait vraiment des choses extraordinaires. Et ses écrits sont des écrits complets. J'ai toute une collection à la maison. Mais je ne me suis pas inspiré quand même de ce qu'il a écrit lui, parce que j'aurais pu l'amener le livre et puis le lire, hein, comme ça c'était plus facile. Mais il a apporté aux uns aux autres aussi, dans ce livre, vraiment des choses qui sont fortes. Et si vous ne l'avez pas, si vous voulez l'avoir, vous pouvez le trouver à celle-ci. Ou alors je pourrais le mettre, ce livre que j'ai là, à la bibliothèque. Hein. Ce serait bien, non? Gratuit, hein? Pas besoin d'acheter. Et pour que vous puissiez aussi le lire et le commenter. Ça, c'est quelque chose qui est important. Les uns, les autres. Membres, les uns des autres. L'Église n'est pas faite d'individuels. D'individualistes, pourrait-on dire, qui vivent chacun leur foi d'un côté et de l'autre, qui rentrent dans l'Église, parfois ensemble, parfois bien séparés, et qui en sortent aussi bien séparés. Et qui n'ont aucune relation les uns avec les autres. Et je voudrais rappeler toutes ces choses-là, finalement, pour moi-même, comme pour chacun d'entre vous aussi, que c'est important. Nous allons lire un texte dans Romains 12. Parler des uns et des autres, ce n'est pas évident toujours, vous savez. Oh, j'ai dû me tromper, non ? Ah si, c'est ça, voilà. Quand Paul écrit aux Romains, il les exhorte et les encourage à mener une vie digne du Seigneur. Et dans ce verset 4 et 5, il dit ceci, « car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Amen. Nous sommes tous les membres les uns des autres. L'Église n'est pas une organisation, elle est un organisme qui fonctionne et dans laquelle l'harmonie doit régner. Parce que si le corps humain est en somme gêné par toutes sortes de choses, on n'est pas à l'aise. Vous savez, moi, j'ai l'arthrose. J'ai mes doigts un peu déformés, je peux toujours tenir les choses. La nuit dernière, j'ai eu 4 ou 5 fois des crampes dans la jambe. Mon organisme qui réagit violemment, là, un peu, hein, et qui m'embête. Mais j'y peux rien. Peut-être que si j'avais eu un régime, peut-être alimentaire, quand j'étais plus jeune, j'aurais moins d'arthrose. Mais parfois, c'est aussi génétique, alors on n'y peut rien. Hein. Mais il ne faut pas qu'il y ait de l'arthrose dans le peuple de Dieu. Quand les articulations ne fonctionnent plus, quand elles sont rouillées, quand, par exemple, on voit dans certaines églises où il n'y a que des personnes âgées, mince. Où sont les jeunes? J'ai vu des églises où, quand on entrait, j'ai l'impression que c'était le plus jeune d'entre eux, quoi. Parce que c'était quand même, quand vous voyez la façon d'être, la manière d'être, on était gênés pour eux. Et je me sentais gêné pour moi. Le corps, l'Église, c'est un corps qui doit fonctionner avec une harmonie, avec une sensibilité renouvelée. Ce n'est pas une organisation. Je dis stop. Mais c'est un organisme dans lequel chacun d'entre nous ici a une fonction, a un rôle à jouer, quelle que soit la position de la personne. On sait très bien de venir sur l'estrade, vous savez. Mais parfois, il y a des conséquences énormes lorsqu'on est sur l'estrade. Lorsqu'on apporte quelque chose qui peut être en contradiction totale avec l'Écriture, et les gens disent « Amen ». Ils devraient dire « Où ?» On a à vivre un organisme qui est équilibré. On peut voir toutes sortes d'excès, vous savez. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de doctrines dans le monde évangélique. on est amené à avoir des positions parfois qui sont ultra, dans un sens comme dans l'autre. On a besoin d'être équilibré, équilibré. Toute la parole, rien que la parole, pas simplement quelques morceaux de la parole, pas simplement comme quelques versets qu'on va utiliser tous les dimanches. On rappelle une église où c'était quasiment tous les dimanches, repentez-vous. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on va rester dans une église où on nous accuse toujours d'être des pécheurs? Ou va-t-on être plutôt dans une église où on nous encourage à vaincre le péché, avoir une vie équilibrée, saine, où le diable n'a plus d'autorité, où il ne peut pas entrer. J'ai vu une vision il y a des années, ici, qu'on est rentré ici, il y a en 2010, qu'il y avait des anges qui gardaient l'entrée de la porte, qui étaient à la porte de l'église, et qui protégeaient l'église de toute intrusion qui serait malsaine. J'avais cette image. Ils étaient là pour garder l'Église, pour la protéger. Vous êtes protégés, nous sommes protégés. Ne nous laissons pas entraîner par l'adversaire dans une mauvaise direction, avec des pensées qui tournent dans notre tête. Dieu protège son Église. Et il nous protège les uns et les autres. Et nous avons besoin, donc, nous tous ici, de cultiver cette pensée que nous sommes les membres les uns des autres. On n'a pas d'ennemis dans l'Église. On a des amis. Dieu veut que nous soyons amis les uns avec les autres. Mais nous savons aussi que dans tout groupement humain aujourd'hui, on le voit dans le monde, la variation des pensées est telle qu'il y a toutes sortes de formes de divisions directement qui se produisent. Vous avez entendu la radio hier ou avant-hier, lorsqu'il y a eu ces attaques, en somme, c'est sur la Syrie. Hein. Il y a toutes sortes d'opinions. Et parfois des opinions qui nous semblent un peu déplacées. Mais c'est des opinions. Et les gens les expriment. Sans réfléchir peut-être aux conséquences de ce qu'ils disent. Nous avons, nous, en tant que chrétiens, à chercher toujours cette communion fraternelle, cette unité que Dieu veut au milieu de nous, et non pas ce qui pourrait, en somme, détruire l'Église, la détruire. C'est le plan du diable. Vous savez, il y a des années, dans une église, c'était à Brest, une dame est arrivée dans l'église, fille de missionnaire. Elle était missionnaire en Côte d'Ivoire. Elle avait été élevée par une nounou africaine. Mais cette nounou était une femme animée par l'esprit du mal. Les missionnaires n'avaient pas eu le discernement. En voyant cette femme venir, elle était très compétente. Seulement, elle a enseigné à cette gamine, au départ, toutes sortes de pratiques occultes. Lorsqu'elle est venue dans cette église à Brest, c'était un ami qui tenait, c'était Joël Bognam, qui était pasteur, lui africain aussi. Et il a été indirectement séduit par cette femme qui était musicienne, qui menait la louange. Une femme occulte qui menait la louange dans l'église de Jésus-Christ. Et qui a mené le désordre dans l'Église. Et c'est un des frères, c'est Gérard Schuller, qui est en Alsace, qui avait été invité là-bas, et qui a eu la vision, qui a vu cette femme qu'elle était possédée par le diable et dirigée par le diable pour détruire l'Église. Alors il l'a dévoilée dans l'Église, il l'a dévoilée, il l'a montrée, et elle a avoué, elle a dit oui, j'étais menée ici dans l'Église pour la détruire. Pour la détruire. Donc, discipliner, on aurait pu dire dehors. Parce que la discipline, c'est une chose, mais des fois, inviter la personne à quitter ces lieux parce qu'elle est dangereuse, c'est aussi des fois la sagesse. Et finalement, elle était restée dans l'église, et puis voilà que Joël n'est plus resté le pasteur, quelqu'un d'autre est venu pour le remplacer. Et il a de nouveau demandé à cette femme de diriger la louange. Eh oui, discernement. Et l'église a été détruite, balayée. Plus d'église. Tout a disparu. Et on était désolé, mais on n'était pas sur place. Et depuis, on sait qu'il y a des conséquences qui sont là pour les chrétiens qui ont vécu ces choses. Il n'y avait pas véritablement d'unité, il y avait une présence qui était anormale. Mais il faut le discernement. Et dans le fait d'être membres les uns des autres, nous avons à veiller les uns sur les autres, à nous encourager, à nous fortifier mutuellement, à ne pas regarder à droite, à gauche, mais de regarder à Christ. Cherchez les choses d'en haut, dit Paul aux Colossiens. Cherchez les choses d'en haut. Et ne regardez pas celles qui sont en bas. Et cette église, donc, a disparu. C'est dramatique. C'est dramatique, mais ce n'est pas la première ni la dernière à qui ça arrive. On a besoin vraiment d'avoir le discernement des esprits et voir ce qui est bon, juste et parfait, et ce qui ne l'est pas, afin que nous soyons en communion les uns avec les autres. Quand je me rappelle de tout ça, c'est quand même des brûlures intérieures. Mais on a aussi parfois une impuissance. Il n'y a que le Seigneur qui peut, à ce moment-là, si on le demande, il nous éclaire. Mais si on ne demande rien, le Seigneur veut nous donner les forces que nous avons besoin. Il y a un chapitre qui est important aussi dans l'Écriture, c'est le chapitre 12 de 1 Corinthiens, mais on ne va pas le lire en entier, parce que où il est parlé du corps. Paul avait à cœur le corps de l'Église. Il avait à cœur de voir l'Église fonctionner. Quand on regarde tout ce qu'il a écrit, Paul, combien de fois fait-il des remarques? Combien fait-il donne-t-il des enseignements pour prévenir et puis reprendre les personnes? L'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens, les Galates, les Éphésiens, etc., les Colossiens. Dans toutes ces lettres, nous trouvons des conseils donnés aux responsables et donnés à l'Église tout entière, puisque la lettre était lue devant tout le monde. Ce n'était pas simplement lu par quelques personnes. La lettre était lue à toute l'Assemblée pour mettre en somme les gens en garde. Et dans ce chapitre 12, il est parlé du corps, ici encore. On va lire à partir du verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Pardon. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dur. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui n'en manquaient. afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Tout à l'heure, j'ai appris une nouvelle. Guy Vorgue a son permis. Honorons-le. Il a eu son permis. Bravo. Il m'a dit, mais j'ai passé à côté, discuté avec quelqu'un, dit, j'ai cru comprendre qu'il avait son permis. Mais alors, comment tu ne l'annonces pas? Bon, il ne l'a pas annoncé, mais moi je l'annonce. Et c'est important qu'on puisse avoir honoré les uns et les autres pour des choses qu'ils ont pu faire. Il y a quelques. Il y a déjà un moment, quand Grégory avait arrêté de fumer et qu'il avait fini, je l'avais annoncé, je crois que. C'était aussi une grande victoire. L'autre jour, il y a la femme de Jean-Michel qui a dit qu'elle avait arrêté de fumer. C'est vrai? Où est-elle? Elle continue?
Oui, elle a arrêté de fumer toujours.
Voilà, victoire! C'est victoire! Quand nous voyons les choses qui se passent dans les vies des uns et des autres, il faut se réjouir. Des bonnes choses. Bon, quand il y a des souffrances, c'est vrai qu'il faut aussi compatir. Avoir vraiment dans le cœur la compassion, les sentiments qui honorent le Seigneur et qui honorent les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'un deuxième point que je voudrais avoir, c'est ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. En Romains 15. Il y a tellement des uns et des autres. Si on faisait tout le calcul, le nombre, on les recherchait, on en trouverait un nombre énorme de les uns et les autres. Les uns pour les autres, les uns avec les autres, etc. Dans l'Écriture, si vous voulez vous amuser, recherchez, hein, ça pourra vous édifier, je pense. Romains 15. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi « accueillez-vous », on a parlé hier, « accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ». Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Vous savez, dans le monde, il y a souvent des préférences. On aime l'un et on ne supporte pas l'autre. On le déteste même. Et d'autres, on les chérit tellement, même n'importe quelle bêtise ils font, ils se sont toujours aimés. C'est l'aspect un peu de l'acceptation de personne. Rejeter. Une personne, oui. Rejeter une personne, pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Mais il ne nous plaît pas. Donc, elle ne nous intéresse pas. Et d'autres, on va en faire des idoles. Dans l'Église de Jésus-Christ, cela ne doit pas être. Avoir une pensée pour chacun, une bonne parole. Moi, j'aimerais bien tous vous connaître, hein. Seulement, j'en connais quelques-uns parmi vous. Vous, peut-être, vous me connaissez mieux que je peux vous connaître, parce que j'ai eu l'occasion de temps en temps d'apprêcher, puis d'être là. Et puis, vous savez qui je suis quand même. Mais pour d'autres, j'ignore. Et j'aimerais pouvoir le connaître. Mais si je vous parle, et si parfois on dit, par exemple, ah, tiens, vous êtes nouveau dans l'Église, et puis on vous dit, non, ça fait 3 mois que je suis là. Aïe, et même plus. Mais on ne fait pas exception de personne. C'est une ignorance. Et je vous demande pardon si je n'ai pas pu vous parler, vous adresser la parole parfois, que je vous ai salué de loin. Mais Seigneur sait que c'est qu'il y a dans notre cœur. Paul lui-même a fait une fois exception de personne. Une fois. À l'Écriture, c'est Jean-Marc. Jean-Marc avec Barnabas. Paul et Barnabas, tous les deux, ont été appelés comme missionnaires par l'église d'Antioche. Ils sont partis et Jean-Marc les accompagnait dans leur tournée. Et puis, en cours de route, Jean-Marc a décidé de partir, il est rentré à Jérusalem. Peut-être qu'il n'était pas encore prêt à ce travail de missionnaire, parce que, comme disait l'autre jour Jean-Michel, rappelez-vous, Jean-Michel Panier, dimanche dernier, c'est la croix ou la valise. La croix ou la valise. Tu restes ou tu t'en vas. D'ailleurs aussi, cette chose a été dite aussi à un autre pasteur, Alexandre Tomy, lorsqu'il a travaillé en Afrique, au Tchad, avec M. Burkhard, lui avait dit aussi, c'est la croix ou la valise. Et eux sont rentrés parce qu'ils ont perdu un enfant là-bas et sont partis. Il y a eu aussi des combats, des luttes, ensuite, entre les personnes, à cause de ce qui s'était passé. Mais avant que M. Burkhard décède, ils s'étaient réconciliés. Il y avait une paix qui s'est installée entre eux. C'est des témoignages de personnes que l'on connaît, que moi je connais, que vous aurez pu connaître, qui ont vécu cette expérience du rejet, d'être rejeté par quelqu'un qui sert Dieu. Paul lui-même a rejeté Marc. Quand Barnabas a demandé, on prend Marc à nouveau, ah non, j'en veux pas. J'en veux pas, débrouille-toi, mais j'en veux pas. Dispute entre apôtres. Barnabas l'a pris. Et Paul est parti. Mais quelques temps plus tard, on trouve dans les écrits où Paul parle de Marc qui lui est cher, qui est de nouveau dans le service avec lui. Comme quoi, Dieu travaille les cœurs de plus engagés parfois pour les ramener à la raison et leur faire comprendre qu'ils se sont trompés. Et je me demande si ce n'est pas Marc qui a écrit l'évangile de Marc, hein. Alors, on peut se tromper sur l'un ou l'autre, mais parfois, Dieu nous reprend et nous conduit à reconnaître qu'on s'est trompé et qu'on a agi d'une façon qui n'est pas celle qui convient à Dieu. Seigneur, je veux être soumis à toi. La soumission, c'est un peu comme le joug, disait quand Daniel a lu ce texte ce matin de Matthieu 11, 28, le joug du Seigneur sur nos vies. Il nous rappelle que c'est lui qui est au règne, c'est lui qui conduit, c'est lui qui est dans chacune de nos vies et nous conduit à vivre des choses que lui veut que nous vivions. Et si on regimbe, c'est pas facile. Il a dit à Timothée, dans l'Épître de Timothée, Marc est utile pour le ministère. Avant, c'était un lâche, il avait lâché la troupe, il était parti. Mais là, il est devenu utile. Utile! Souvent, nos sentiments sont partagés. Il y avait aussi Jean-Michel Panier qui disait une chose, souvent, on bavait toujours quand il était en mission, le sentiment. C'est un peu ce genre de parole, hein, le sentiment. Donc, le sentiment, attention. Si on marche au sentiment, et non pas à la réflexion et à se mettre devant Dieu pour voir qu'est-ce qu'il dit, lui, de ce que nous pensons. Cela est vrai pour les responsables, mais c'est vrai pour chaque chrétien. Chaque chrétien a besoin de réfléchir parfois à ses décisions, de ne pas s'obstiner dans une direction, alors que Dieu lui a déjà montré d'une façon certaine et sûre que ce n'est pas la voie. Il y a des gens qui ont voulu partir en mission en Centrafrique, je les ai vus. Ils sont arrivés au mois de juillet, ils sont repartis au mois de septembre. Ils avaient tout vendu, démissionné de leur travail, décidé qu'ils allaient servir Dieu là-bas en Centrafrique. Je crois 2 mois et demi après, retour au bercail, sans plus rien. Parce que ce n'était pas leur voie, ils n'étaient pas appelés à cela. C'était une charge qui les dépassaient. Ils ont cru qu'ils auraient pu faire. Ils sont allés aussi au Madagascar. Ils ont lâché pareil. Ce n'était pas leur voie. Mais là, qui s'obstinent, qui veulent à tout prix exercer un ministère, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Là, qui dit souvent, il faut mieux être un bon second qu'un très mauvais premier. Il y a des personnes qui exercent l'autorité, parfois, ne sont pas dans le chemin qu'il faut. Parce que ce n'est pas leur, c'est pas ce que Dieu veut. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Moi, je suis heureux ici de voir comment l'Église a pu se développer. Quand nous avons commencé notre Église, dans la maison, nous étions 8. 8 personnes. Aujourd'hui, sur ces 8, il n'en reste 4 ici. Et vous êtes presque 200. Dieu a multiplié. Dieu a multiplié parce que Dieu nous a permis aussi d'accueillir et de pouvoir accueillir au mieux. On rappelle qu'on a vécu dans notre maison, dans notre salon, ça devenait à l'étroit. On était une trentaine, 30, 40. C'est là qu'ils connaissent où habite Jean-François, c'était là, dans la maison. C'est plutôt serré. Et quelqu'un en avait assez que ce soit dans la maison. C'est amusant. Il a décidé de chercher un local en ville, à Rennes. Sans m'en parler. Il y a à peu près le topo. Pas au courant. Et puis, il vient me voir, moi, tu sais, l'église de maison, moi, j'en ai assez. Ce serait bien mieux qu'on soit en ville. J'ai trouvé une salle. Ah, bon. C'était à la Mabilais, quelques centaines de mètres vers le centre. Dans un ancien garage qui était là, qui paraissait bien, on l'a rangé, on l'a... Et puis, quand on regarde le bail, on apprend que normalement, il allait être démoli. Erreur de la part de celui qui avait cherché. Hein ? Il n'avait pas réfléchi. Il n'avait pas lu le bail. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, tu nous donnes ce local, même si c'est d'une façon maladroite, et puis, hein, tu ne vas pas permettre que ce local soit démoli. Que ce local soit démoli. Merci Seigneur, ma prière. On est resté 18 ans. Et après, il a été démoli. Et on est venu ici. On était trop à l'étroit là-bas, justement, dans le lieu où on était. L'église avait grandi. Et on dit, Seigneur, donne-nous un autre local. Qu'il soit confortable, accueillant. Et on est ici. Avec un premier morceau, et puis un deuxième morceau, un agrandissement. Et puis, du fait qu'on a agrandi, ça s'est rempli. Dieu a fait en sorte que sa volonté s'accomplisse et non pas notre volonté. Mais on s'est laissé conduire par lui, malgré les maladresses. Parce que celui qui avait décidé qu'il fallait qu'on ait un local, il est parti. Il nous a quittés parce qu'on n'allait pas dans sa direction à lui. Mais c'est la direction de Dieu qu'il faut chercher, et non pas celle d'une personne ou d'un groupe. Dieu a fait les choses merveilleusement bien. Et nous sommes ici, et je me réjouis de ce que nous sommes là. On ne sait pas encore combien de temps. Vous avez déjà 8 ans. Hein ? Ça passe vite les années. 8 ans. 8 ans. Allez, encore 10 ans, mais je ne serai plus là. Oh, pardon. Je ne sais pas. On peut faire encore des centenaires. Hein ? Mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et je me réjouis de ce que dans l'Église, les gens viennent ici, et j'espère qu'ils vont recevoir tout l'accueil qu'ils recherchent, l'attention, l'amour, la compréhension, l'écoute qui est due à tout membre d'une assemblée, pas d'une association, d'une assemblée. Et que tous vous soyez convertis, baptisés, être richement béni par Dieu, ce que j'ai été. Quand je suis rentré pour la première fois dans cette église, dans ce sous-sol, qu'on voit au milieu de nous ici le feu de Dieu se manifester, la puissance de Dieu, la gloire, l'amour de Dieu manifesté, mais dans sa puissance. Parce que de la puissance sans amour, ça n'a pas de sens. On voit dans des églises où tous les dons spirituels sont peut-être manifestés, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des commandements, il n'y a que des injonctions, des ordres donnés. Dieu veut ici que nous vivions dans cette harmonie, les uns et les autres, et pour sa gloire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que pour vous tous, vous puissiez vivre pleinement cette communion les uns les autres, cette richesse. Il y a quatre piliers. L'enseignement, on l'a, l'enseignement. Le partage du pain, la Sainte Cène, nous la partageons tous les dimanches. Et c'est une bonne chose de pouvoir partager tous les dimanches. Que ce ne soit pas n'importe comment comme une tradition, mais comme une injonction de Dieu. Chacun. Et aussi les prières. Et je vous encourage, frères et sœurs, je le redis peut-être souvent quand je suis là, une réunion de prière est importante. Quand nous sommes le mardi soir ici, nous sommes une trentaine. Bon, pas beaucoup, hein? Où sont les autres? Je ne veux pas vous faire une exhortation, une engueulade, entre guillemets. Mais il est important de venir prier, de venir connaître le besoin des uns et des autres aussi, parce qu'on ne peut pas les connaître le dimanche. On ne va pas demander à tous de pouvoir se lever et de donner leur doléance ou donner... Je préférerais, moi, plutôt les victoires, hein, témoignages de victoires que vous pouvez avoir dans votre vie. Ça pourrait nous exhorter les uns les autres. Je vous invite à venir à la réunion. Peut-être, c'est vrai qu'en rentrant du travail, je comprends. Moi, je suis un retraité depuis 20 ans, presque 21. Donc, j'ai mon temps. Et pour ceux qui travaillent, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de rentrer chez soi et de repartir pour venir à la réunion. Ça, je le reconnais. Mais il est important que vous puissiez aussi, quand même, partager et vivre ces moments de communion que nous vivons en ce lieu. Que le Seigneur donc vous fortifie et vous encourage les uns les autres à vivre pleinement votre foi et à être richement bénis et encouragés. On va prier. Seigneur, tu as entendu tout ce que j'ai pu partager avec mes frères et sœurs. Seigneur, tu es celui qui veut ce matin encourager ceux qui sont, on peut dire, désespérés, qui sont seuls, qui sont isolés, qui n'osent pas ouvrir la bouche, qui n'osent pas venir faire un pas vers l'autre. Mais tu vois aussi ceux qui peuvent faire le pas vers l'autre et qui ne le font pas. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette dimension de communion fraternelle, de richesse qui vient d'en haut. Ce ne sont pas les richesses d'en bas qui comptent, c'est celles d'en haut, celles que tu veux donner à chacun. La joie dans le Seigneur, la liberté dans le Seigneur, la compassion, la miséricorde, tous ces fruits de l'Esprit que tu veux accorder à chacun d'entre nous. Seigneur, fortifie-nous, réjouis nos cœurs et donne à chacun, oui, à chacune ici, de vivre pleinement les richesses de l'amour de Dieu et de l'amour des frères et sœurs. Merci et loué sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Amen.